Alors ce matin, on va voir ensemble Daniel chapitre 9 et on va voir ce qu'est une vraie confession. Alors on saute Daniel 8, peut-être vous dites, oh là, mais où est Daniel 8 dans l'histoire? On a vu un petit peu de Daniel 8 la dernière fois, on ne va pas le sauter complètement, mais dans Daniel chapitre 8, il est question d'une... comment dire, une partie de l'histoire, hein, avec un homme qui s'appelle Antiochus Épiphane, roi de Syrie. Et Antiochus Épiphane est une image de l'Antéchrist. Et donc, on va reparler de lui ici, chapitre 11. Donc, on va garder le chapitre 8 quand on traitera le chapitre 11. Et on verra ça ensemble. Et donc, on va faire le chapitre 9. Hein, si vous voulez prendre Daniel 9, 1 à 27. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le pays, le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face en ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous, et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous. Car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte, par ta main puissante et qui t'ai fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville, de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentai mes supplications à l'Éternel mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Alors, on voit maintenant Daniel qui est devant un roi, le roi Darius le Mède. Et Daniel lit sa Bible, il prend les rouleaux et il est en train de lire. Et il est en train de lire le prophète Jérémie. Et là, dans sa lecture, il en vient à Jérémie, chapitre 25. Gardez votre main dans Daniel, prenez Jérémie, chapitre 25. Donc Daniel est avec son rouleau devant lui, et il lit ça. Écoutez, chapitre 1 à 11. « La parole fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. » C'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Parce que Jérémie prononça devant tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem en disant « Depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé dès le matin et vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit, revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous, à vos pères, d'éternité en éternité. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne méritez pas par l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous n'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de mériter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. » C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous n'avez pas écouté mes paroles. J'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ses nations alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation, de moquerie, de ruine éternelle. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, et les chants du fiancé, et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. » Asservissement pendant 70 ans. Daniel est à la cour de Babylone avec Darius, et il lit ça. 70 ans. Il s'arrête, il est stupéfait. 70 ans, ça veut dire quelque chose pour lui. Ça veut dire qu'ils vont rester à Babylone durant cette durée de 70 ans, mais il y a un terme. Un jour, ça s'arrête. Alors, il continue à lire. Il continue à prendre Jérémie. Et là, dans sa lecture, il arrive au chapitre 29. Regardez chapitre 29. Et il lit les versets 10 et 11. Chapitre 29, versets 10 et 11. Voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et imaginez Daniel qui lit de nouveau ça, qui s'arrête, et là, Daniel tombe à genoux. Il tombe à genoux, et on revient dans le livre de Daniel, chapitre 9, verset 3. Daniel 9, verset 3, « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant, en prenant le sac et la cendre, je priai l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession. » Et là, on est au cœur de ce chapitre 9. Il s'agit d'une confession. C'est une vraie confession. Daniel nous apprend ce qu'est une vraie confession. Alors, ce message n'a pas pour but d'expliquer comment faire une vraie confession, mais plutôt de montrer ce qu'est une vraie confession. Parce que je crois qu'on ne fabrique pas une confession. Confession, c'est... ça sort du cœur, ça déborde. Confession, ça vient de l'âme. C'est un désir profond de repentance, de changement. Un désir d'être pardonné, d'être peut-être réhabilité, restauré. Néanmoins, il y a des choses que l'on doit comprendre quand on parle de confession. Pendant longtemps, la confession, ça faisait référence au confessionnal. Donc, c'est imprégné dans notre culture, confession, confessionnal. Mais aujourd'hui, et je pense les jeunes générations, confession, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. On ne pense pas à confessionnal, pas forcément. Et on trouve aujourd'hui beaucoup d'hommes et de femmes qui ont le cœur lourd, le cœur pesant par rapport à des choses qu'ils ont fait, qu'ils n'auraient pas dû faire. Et ils ne savent pas où trouver un soulagement. Ou être vraiment soulagé. Verset 4, Daniel commence ainsi. Il dit, « Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. » Et je m'arrête ici. Premièrement, il est bon de rappeler que la confession, elle se fait à Dieu. La confession, elle se fait à Dieu. Aujourd'hui, les hommes se confessent. Ils se confessent à leurs amis, ils se confessent à leurs médecins, ils se confessent parfois à des associations, ils se confessent à la Sainte Vierge, ils se confessent à Saint-Jean, à Saint-Maurice et à plein d'autres encore. Parfois, ils se confessent sur Internet, de manière anonyme. Voilà, on se confesse au monde entier, en fait. Voilà, j'ai fait ça. Voilà, je suis désolé. Oui, on se confesse. Mais la confession... elle doit être adressée à Dieu. On se confesse à Dieu. Pourquoi ? Parce que le soulagement dans la conscience ne vient pas des hommes ou des saints, mais il vient de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut soulager une conscience qui est alourdie. Et le pardon, il ne vient pas des hommes. Personne ne peut pardonner le péché d'un autre, à part Dieu, Jésus-Christ. Et dans une société qui ne sait plus rien de Dieu, qui n'a plus aucune crainte de Dieu, qui n'enseigne plus grand-chose sur Dieu, aujourd'hui c'est le cas, eh bien il faut le rappeler. La vraie confession, elle est à Dieu. Daniel commence ainsi, « Seigneur, grand Dieu, Dieu grand et redoutable. » Il dit, verset 5, « Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants, rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. » Et je le disais, deuxièmement, la vraie confession, elle sort du cœur. C'est quelque chose qui doit être sincère et qui doit être direct. Daniel n'a pas une formule alambiquée, tordue. Oui, il se pourrait que, eh bien, nous ayons fait des choses que peut-être nous n'aurions pas dû faire. On a peut-être un peu dévié du droit chemin, Seigneur. Non, Daniel est direct. Nous avons péché. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants. Nous avons été rebelles. Il est précis. Et il nomme les péchés. Les péchés de la nation. Il n'y va pas par quatre chemins. C'est clairement dit. Ça, c'est le signe d'une vraie confession. Vous savez, parfois, il y a deux personnes et puis l'une offense l'autre ou l'une blesse l'autre. Et puis après, voilà, il se passe, je ne sais pas, 24 heures ou 10 jours ou un mois et puis prise de conscience. J'aurais pas dû faire ça. Et l'erreur qu'on entend parfois, ou que l'on fait soi-même, c'est de dire, bon, vraiment, si je t'ai blessé, je suis désolé. Si je t'ai blessé. Mais vous savez, avec Dieu, la vraie confession, ce n'est pas un si. On ne dit pas de si avec Dieu. Si jamais, Seigneur, nous t'avons offensé. Non. On dit, nous t'avons offensé. Nous avons péché. Ça, c'est une vraie confession. Ça sort du cœur, c'est direct. Verset 13, il dit « Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. » Là encore, c'est précis. « Alors que nous aurions dû prier, nous n'avons pas prié. Alors que quand tu as envoyé des épreuves et des choses terribles et des châtiments, nous ne nous sommes pas détournés. Nous n'avons pas été attentifs à la vérité, au prophète, à la parole de Dieu. Nous n'avons pas lu la parole de Dieu. Seigneur, pardonne. » La vraie confession, elle est directe et ça prouve sa sincérité. Ensuite, la vraie confession éprouve une honte de ce que l'on a fait. Regardez versets 7 et 8. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face en ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, nos chefs, nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Et le terme confusion ici est traduit ailleurs dans la Bible, le même terme en hébreu, il est traduit par honte, par opprobre. À toi, Seigneur, la justice, à nous la honte sur notre face, à nous l'opprobre. Et dans une vraie confession, il y a la honte d'avoir fait une chose comme cela. Ça revient, on a honte. On aurait voulu ne pas avoir fait ça, mais voilà, on l'a fait et on en a honte. Je me souviens un jour d'avoir entendu un prédicateur dans une conférence. C'était un Américain. Et je ne sais plus, à un moment dans son message, il voulait expliquer que quand, dans sa jeunesse, quand il faisait quelque chose qu'il ne fallait pas, il y avait cette phrase qui sortait de la bouche de ses parents, c'était « Shame on you ». Honte sur toi. Honte sur toi d'avoir fait une chose pareille. Shame on you. Et la vraie confession, elle est consciente de cette honte du péché. Et pas simplement honte d'avoir péché envers quelqu'un, d'avoir offensé quelqu'un, mais honte vis-à-vis de Dieu, d'avoir péché contre Dieu. À toi, Seigneur, la justice, à moi la honte. La honte et l'opprobre. Ensuite, une vraie confession est toujours humble et elle ne s'élève pas au-dessus des autres. Regardez versets 10 et 11 et notez ici le pronom personnel que Daniel emploie. Il dit « Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé la loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. » Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Et on voit Daniel qui s'inclut dans la prière. Il n'est pas en train de regarder ses frères israélites en disant « Ils ont péché, Seigneur, pardonne-les, ils ont péché. » Non, il est en train de confesser les péchés de la nation, mais ses propres péchés aussi. Il ne se sent pas innocent. Il sait qu'il est un pécheur comme les autres. Bien que quand on regarde le livre de Daniel, on se dit « Mais il semble irréprochable. Il semble sortir du lot, mais lui sait bien qu'il est un pécheur, qu'il est comme les autres. » Il est conscient de cela. Et il est humble devant Dieu. D'ailleurs, il va recourir, on a lu au début du chapitre, à la prière, aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Et Daniel s'humilie. Et il jeûne, pas pour accomplir une œuvre, pour avoir plus de faveur devant Dieu, parce qu'il s'est privé de nourriture. Non, il jeûne parce qu'il a plus faim. Il a plus faim, il n'arrive plus à manger. Il a besoin de trouver son Dieu, il a besoin de prier. C'est pour ça qu'il jeûne. Ce n'est pas quelque chose de méritoire. C'est que la priorité, c'est trouver son Dieu. Trouver son Dieu. Et il fait ce que les Juifs faisaient culturellement. Il prend un sac de crin, il se met sur le dos, il se jette de la cendre sur la tête. Il est dans l'humiliation. Abaissé. Une vraie confession, elle est souvent à genoux. À genoux devant le Seigneur. Une vraie confession accepte aussi les conséquences de son péché, de ses péchés. Regardez verset 12. Dieu a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Et puis verset 14, regardez. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et la vraie confession, elle accepte les conséquences du péché. Elle reconnaît que Dieu est juste dans toutes ses voies, dans tout ce qu'il fait. Il ne se trompe pas. Et dans sa sagesse, eh bien, il permet aussi qu'il y ait des conséquences. Daniel ne remet pas en question Dieu et ce qu'il a fait. Au contraire, il se courbe et dit « Tu as fait ce que tu devais faire. Tu as eu raison de le faire. C'était juste que tu le fasses. » Ensuite, sixièmement, la vraie confession, et c'est très important, elle ne vise pas le désespoir, mais l'espérance. Et s'il y a une confession, eh ben c'est pour être soulagé, c'est pour être pardonné, ça c'est le but. Et c'est quelque chose qui ressort de la prière de Daniel, dès sa première parole au verset 4. Il dit « Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. » Et sa prière, elle regarde avec espérance « Seigneur, toi qui gardes ton alliance. » Je le sais, tu gardes ton alliance envers Israël et tu fais miséricorde. Et vous savez, si quelqu'un qui ne connaît pas vraiment le Seigneur s'approche de Dieu pour confesser, et c'était mon cas, quand j'ai commencé à me soucier de Dieu dans ma vie, je suis allé confesser. J'allais dans des églises et je confessais. Je récitais Notre Père, j'étais repentant. Mais je n'avais pas de soulagement parce que je ne connaissais pas Dieu. Je ne le connaissais pas. J'imaginais même pas que le pardon était accessible, qu'il était là à portée de main et que je pouvais le saisir. Il n'y avait pas la foi dans mon âme. Et quelqu'un, eh bien, quand il ne connaît pas Dieu, il n'y a pas la foi, il ne reçoit pas le pardon. Mais l'enfant de Dieu, quand il s'approche de Dieu, il connaît Dieu. Il peut avoir de l'espérance, d'être pardonné. Et il faut qu'on regarde avec espérance. Dieu gardait son alliance pour Israël. Dieu garde son alliance pour ses enfants. Aujourd'hui, pour la nouvelle alliance en son sang. Mais bien sûr qu'il garde cette alliance. Comme il n'a pas rompu son alliance avec Israël, il ne rompra pas son alliance. avec ses enfants, alliance en son sang. Verset 9, il dit « Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon. » C'est le verset qu'on a mis au-dessus de la porte de l'église. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Peut-être vous ne l'avez même pas remarqué. Petit verset, juste au-dessus de la porte. « Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon. » Venez, Dieu vous pardonne vos péchés. Et puis encore, regardez verset 16. Daniel se repose et invoque la miséricorde. Verset 16, il dit « Seigneur, selon ta grande miséricorde, selon ta grande miséricorde alors. » Et la prière de confession, si elle se fait dans l'humiliation, dans la honte d'avoir mal agi, elle doit aussi avoir l'espérance de la grâce de Dieu. On invoque et on se repose sur un Dieu bon et miséricordieux. Et le pardon se trouve auprès de lui. Et c'est mon septième point ici. La vraie confession, elle trouve le pardon. Quand on se confesse vraiment, on trouve toujours le pardon. Il est dit dans l'épître de Jean, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Et pour nous purifier de toute iniquité. Et c'est une réalité. Celui qui confesse sincèrement son péché à Dieu, pas aux hommes, à Dieu, eh bien, il trouve le pardon. Rien ne sert de confesser à des hommes. Les hommes ne peuvent pas libérer de toute trace dans la conscience. Ils ne peuvent pas accorder le pardon. Ce n'est pas de leur ressort. Regardez Judas, qui a trahi le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les 30 pièces d'argent, pris de remords. Il est allé voir les souverains, le souverain sacrificateur et les sacrificateurs et les juifs. Il a jeté les 30 pièces d'argent. Il a dit « J'ai péché en livrant le sang innocent. » C'était quoi? Confession? Mais une confession aux hommes, pas une confession à Dieu. Et accablé, il est allé se pendre. Il est allé se pendre. La vraie confession à Dieu trouve le pardon. Si on lui confesse notre péché, alors il nous accorde le pardon. Et il est bien malheureux que les hommes recherchent et espèrent trouver un soulagement dans la confession de leur faute à d'autres hommes, alors que tout vient de Dieu. La prière de confession de Daniel, elle s'achève au verset 15. Et puis ensuite, à partir du verset 16, on peut dire que ça change. Daniel adresse une requête. Regardez, on va relire les versets 16 à 19. « Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville, de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem, et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille, écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis, ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. » Daniel a fait une prière de confession, mais une fois qu'il a vidé son cœur, une fois qu'il a, il a dit tout ce qu'il fallait dire, à ce moment-là, Daniel prie, mais là, Daniel demande, il demande. Parce que quand on a confessé tout son péché à Dieu, eh bien après, on peut demander. C'est là où on peut s'approcher de Dieu. Il est dit dans Ésaïe 59, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour vous entendre, mais ce sont vos péchés, ce sont vos crimes qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Et tant qu'on n'est pas passé par une vraie confession de ses péchés à Dieu, mais il y a un mur d'airain et la prière ne dépasse pas le plafond. Dieu ne peut pas. Dieu ne veut pas écouter. Mais quand on a confessé, alors après on peut demander. Le ciel s'ouvre. Dieu accepte la prière. Dieu veut que nous demandions. Et vous savez, nous n'avons pas à expier nos péchés par nous-mêmes. Nous n'avons pas à porter notre misère pendant des jours et des jours. Jésus-Christ l'a fait pour nous. Jésus-Christ a porté nos péchés sur la croix de Golgotha. Il a porté la misère de notre péché. Et donc, quand on confesse son péché dans la foi en Jésus-Christ, le ciel s'ouvre et Dieu accepte notre prière. Il nous pardonne et il nous accueille. Et une prière sincère de confession, elle peut être suivie d'une requête, d'une demande. Et il est triste, vous savez, de voir des millions de gens confesser leurs péchés à d'autres hommes et après attendre, espérer quelque chose de Dieu. Dieu veut qu'on lui confesse nos péchés à lui, à sa personne. Il est esprit. Il veut qu'on s'approche de lui. Il n'est pas trop loin. Il est proche. Il n'est pas trop grand. Parfois, on se dit, ouh, Dieu, non, 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 non. Le Créateur, non. Cette personne-là, elle est plus humaine. Elle est plus à ma dimension. Non, Dieu veut qu'on s'approche de lui. Et il est proche. Il est proche de nous. Il faut lui confesser nos péchés. Il nous accueille. Jésus-Christ est mort pour nous ouvrir le ciel et pour nous permettre de recevoir le pardon de nos péchés. Daniel a confessé, alors Daniel demande. Et qu'est-ce qu'il demande? Il demande le rétablissement de Jérusalem. Il a vu cette promesse dans les rouleaux de Jérémie. Alors il réclame que Dieu fasse briller sa face sur le sanctuaire, le temple, qui est dévasté. Ce qui tient à cœur Daniel, c'est l'honneur de Dieu. C'est le retour des Juifs dans leur pays. C'est la gloire de l'Éternel restaurée aux yeux des nations. Et là, on voit sa prière change de ton. Il va maintenant mettre Dieu en avant. Et il va lui demander d'intervenir à cause de lui-même. À cause de lui-même. Regardez verset 17. Il dit, « Pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. » Traduit autrement, ça veut dire « à cause d'Adonai ». À cause d'Adonai, à cause du Seigneur. Seigneur, eh bien, fais briller ta face, interviens, pour l'amour de ton nom. Regardez verset 19. Il dit « Agis, ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu, par amour pour ce que tu es, un grand Dieu, puissant, miséricordieux, bon et fidèle. » Et Daniel se repose sur ce qu'il a lu dans les Écritures et il invoque Dieu avec hardiesse, avec audace. Fais-le à cause de toi, pas à cause de nous, mais à cause de toi. Et nos prières, elles sont souvent petites et timorées à côté d'une prière comme celle-là, des prières de Daniel ou même des prières de l'apôtre Paul. Et on devrait prier avec hardiesse quand il s'agit de la gloire de Dieu, quand il s'agit de l'Église de Jésus-Christ. On devrait prier avec hardiesse parce que c'est la volonté de Dieu. C'est vraiment sa volonté qu'il brille et qu'il soit glorifié. On peut prier, Seigneur, par amour pour toi, par amour pour ton Église. Agis, relève les découragés, affermis les chancelants. Fais briller ta face sur tes enfants. Spurgeon, je me souviens d'un sermon que j'ai lu qu'il avait prêché, où il disait « argumenter ». Vous avez les Écritures qui vous donnent des promesses, qui vous donnent des vérités, qui vous donnent la volonté de Dieu. Mais allez-y, Seigneur, tu as dit, fais-le, agis. Daniel termine en disant, « Car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. » Ça, c'est ton honneur, Seigneur. C'est ton honneur qui est en jeu. Si Israël est dépouillé, si Jérusalem est détruite, mais ça retombe sur l'Éternel Dieu. si l'Église est souillée, si l'Église ne vit pas la vie en Jésus-Christ, mais ça retombe sur Jésus-Christ. Seigneur, agis dans ta grâce. Agis, ne tarde pas. Cette prière-là, elle contient une force. Une force. Il faut avoir l'audace de la faire. C'est une prière de foi qui prend à cœur les intérêts de Dieu et qui vise la gloire et l'honneur de Dieu. Et que se passe-t-il quand on prie comme cela? Dieu exauce. Regardez versets 20 à 23. Daniel 9, 20 à 23. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Daniel n'a pas fini de prier que Dieu est déjà en train d'envoyer un exaucement au travers de Gabriel, donc qui apparaît comme un homme, mais en fait c'est l'ange Gabriel. Et Dieu veut donner une révélation supplémentaire à son enfant qui a à cœur les intérêts de Dieu. Et lorsqu'on prie, Dieu exauce. De toute façon, quand on prie, le but de la prière, c'est de trouver l'exaucement. On prie pour ça, être exaucé. Et Dieu a établi la règle. Demandez et vous recevrez. Ça, c'est la règle. Demandez, vous recevrez. C'est Jésus qui nous le dit. Et c'est valable pour tous. Le malheur, c'est qu'on ne demande pas toujours ou on demande peu. Très peu. Verset 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Et nous sommes des bien-aimés du Seigneur. Nous sommes tous des bien-aimés. Si nous avons accepté Jésus, si nous sommes venus à lui pour trouver le pardon, alors il faut prier. Si Daniel n'avait pas prié, la parole ne serait pas sortie et l'exaucement ne serait pas venu. C'est sa prière qui a entraîné l'exaucement. Dieu a vu son cœur, il a entendu sa prière et Dieu exauce les prières. Demandez pour recevoir. On confesse s'il faut confesser et puis après on demande et on reçoit. Alors Daniel va recevoir une vision supplémentaire. Dieu lui révèle son plan, il lui révèle ce qu'il va faire. Et on va expliquer maintenant les 70 semaines qu'on trouve ici dans, et qu'on voit ici dans la fresque. Donc, vision des 7 semaines et ici les 69 semaines plus une, 70. Alors, il y a beaucoup à dire. D'abord, dans un verset, c'est le verset 24. Regardez verset 24, je vais essayer de pas faire trop long. Verset 24, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. L'ange Gabriel parle de 70 semaines avant que toutes ces choses s'accomplissent. Donc, après les 70 semaines, Dieu va faire cesser les transgressions, mettre fin au péché. Donc le péché n'aura plus libre cours. Le péché ne pourra plus s'exprimer comme il s'exprime. Deuxièmement, l'iniquité sera expiée. Ça signifie qu'il y aura une expiation. Daniel ne sait pas tout, il ne voit pas tout. Mais en fait, c'est Jésus-Christ qui expie nos péchés sur la croix, c'est-à-dire qui prend notre péché, qui subit la colère de Dieu, le jugement de Dieu pour nos péchés et qui nous accorde par sa grâce la justice. Ça y est, le péché est expié, le pardon peut être accordé. Parfois, on entend dire, c'est Dieu qui verra. Vous savez, il y a cette pensée dans certaines parties du monde où Dieu décide. Et il décide comme ça. C'est-à-dire, toi, tu es jugé, toi, tu es sauvé. Et c'est comme ça, et sans explication. Hein, il décide. Mais Dieu ne peut pas faire ça. S'il fait ça, il est injuste. S'il dit, toi, oui, et toi, non, il est injuste. Pourquoi ? Parce qu'il ne juge pas le péché, il ne juge pas le mal. Le mal doit être jugé, c'est obligatoire. Dieu est juste, il est saint, il doit juger le mal. Et pour pouvoir pardonner, alors il fallait que le mal soit jugé, et il a été jugé sur Jésus-Christ. En sorte que quand on confesse ses péchés à Dieu, à Jésus-Christ, il les prend sur lui, il expie notre péché, il subit la condamnation. Et nous, on peut recevoir le pardon de Dieu. 70 semaines et l'iniquité sera expiée. Et puis, la justice éternelle sera amenée. Là, on voit se profiler un temps où la justice de Dieu, eh bien, éclatera dans toute sa splendeur. Et on voit le millénium ici. Il dit, pour sceller, 70 semaines, pour sceller la vision et le prophète. Quand on scelle quelque chose, c'est pour pas qu'on l'ouvre, hein. C'est scellé, c'est fermé, c'est plus ouvert. Hein. Et c'est une manière de dire, la vision sera terminée. Les prophéties cesseront. Et puis, cinquième chose, pour oindre le Saint des Saints. Et le Saint des Saints, c'est pas une personne, c'est un lieu. C'est le lieu du tabernacle, puis après ce fut le lieu du temple, ou des temples, hein, avec Salomon et d'autres. Mais Moïse a fait l'onction sur le tabernacle et sur le Saint des Saints. Après, l'onction n'a pas été répétée pour le temple de Salomon et puis pour le temple d'Hérode. Mais après, eh bien dans le futur, on va entrer dans un nouveau temps, nouvelle ère. Hein. C'est un futur lointain. Il est parlé du tabernacle de Dieu où Dieu sera avec les hommes. Est-ce que cette onction parle de ce tabernacle-là? Ou bien est-ce qu'il s'agirait du tabernacle céleste où Jésus a présenté son propre sang, l'onction? Daniel reçoit donc une vision de ce que Dieu va faire. Pour lui, il fallait que 70 ans s'écoulent pour qu'ensuite les Juifs qui étaient prisonniers à Babylone puissent repartir à Jérusalem, dans le plus beau des pays, comme la Bible le dit. Et donc, Daniel a les yeux fixés sur cette espérance proche, le retour des Juifs à Jérusalem. Mais Dieu va lui accorder de voir beaucoup plus loin. Daniel pouvait voir encore plus grand que la simple délivrance de Babylone. Alors, il lui dit, regardez verset 25. « Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. » Alors, quel est le moment? On va essayer de... Suivez-moi, là. Hein? Essayez de me suivre. Quel est le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait rebâtie? Je vous avais parlé de Cyrus, vous savez, qui a donné un édit et qui a dit, que la maison de Dieu soit rebâtie à Jérusalem. Allez, tous ceux qui sont peuple de l'Éternel. Et on pense à Cyrus, mais si on prend la date de Cyrus, on ne comprend pas la vision. On ne comprend pas la prophétie. Il doit y avoir une autre date. Quelle est cette date? C'est Néhémie, chapitre 2, verset 1. Si vous avez un peu de mal avec la Bible, je vous le lis. Ne le cherchez pas. Mais Néhémie, chapitre 2. Néhémie, chapitre 2, verset 1. Il est dit, « Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le roi était devant lui, je pris le vin » et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Pourquoi Néhémie est triste? Il est triste parce qu'il vient de voir quelqu'un qui lui a dit que Jérusalem est en ruine. Les portes sont consumées par le feu. Alors Néhémie est triste. Il dit, mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose, il faut rebâtir les murailles de Jérusalem. Alors que va-t-il faire? Eh bien, troublé, triste, le roi va se tourner vers lui, Artaxerxès, et il va lui dire, ben voilà, il va prier, et puis il va dire, ben voilà, ma ville est détruite, je voudrais la reconstruire. Et là, Artaxerxès, ce jour même, il lui dit, tu peux y aller. Vas-y, combien de temps vas-tu partir? Prends ce qu'il te faut, tu peux y aller. Et là, on a une date, puisqu'il est dit au mois de Nissan, la 20e année du roi d'Artaxerxès. Donc la date, elle est précise. Et on sait, c'est noté quelque part, 445 ans avant Jésus-Christ. 445 avant Jésus-Christ. Donc il faut prendre cette date de 445 avant Jésus-Christ, et de cette date, il faut calculer 70 semaines. En hébreu, le terme qui est traduit par semaine dans notre texte, en fait, ça signifie une période de 7. Ça peut être 7 jours, ça peut être 7 années. C'est une période de 7. Donc, on a une première période de 7 semaines, 7 fois 7. Alors, si on prend des semaines d'années, ça fait 49 ans. Et puis, on a une deuxième période de 62 semaines. Et là, ça donne 434 ans. Donc, 49 plus 434. Donc, ça fait 69 semaines. Ça fait 483 ans. 483 ans. Daniel 9, verset 26. Regardez. Le début du verset dit, « Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. » Donc, dans le verset, il ne précise pas, mais il y a les 7 semaines en premier, puis les 62 semaines, et après, le Messie est retranché, il n'a pas de successeur. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Il est en train de donner la date de la crucifixion de Jésus-Christ. Daniel reçoit une prophétie précise de la mort du Messie, de l'expiation du péché. Il est intéressant de noter, peut-être de souligner ici, Gabriel dit, il n'aura pas de successeur. Hein? Vous savez, parfois on entend, oh, il y a un successeur, il y a un dernier prophète. Non, il n'y a pas de dernier prophète. Il n'a pas de successeur. Il n'a pas d'autre. Mais le fait incroyable, c'est que Dieu donne à Daniel la date de la crucifixion. Alors, on part de cette date de 445 ans avant Jésus-Christ. On avance de 483 ans et on devrait avoir la date de la crucifixion ou être proche. Et en faisant le calcul, on tombe à 38 après Jésus-Christ. 38 après Jésus-Christ. Mais peut-être il faut ajouter un élément qui n'est pas identique à ce que nous connaissons aujourd'hui. D'abord, on a un problème, c'est que nos calendriers n'ont pas arrêté de changer. On a tout le temps changé. Les années de notre calendrier aujourd'hui, c'est 365, mais donc calendrier grégorien, mais il faut savoir que jusqu'au XVIe siècle, on avait le calendrier julien, 355 jours, 10 jours de moins. Donc les années, de l'année, ça n'a jamais été vraiment très stable, hein. Et que dit la Bible au sujet du nombre de jours pour une année? Peut-être faudrait se pencher un peu sur ça. Et quand on prend le livre de Daniel, dont vous souvenez, un temps, des temps et la moitié d'un temps, 3 ans et demi, quand on prend le livre de l'Apocalypse, où là il nous est parlé de 1260 jours, qui correspondent à un temps, des temps et la moitié d'un temps, eh bien on en déduit qu'une année, c'est 360 jours dans la Bible. C'est pas 355, c'est pas 365, c'est au milieu. C'est 360 jours. Et donc, il faudrait faire le calcul avec des années de 360 jours. Et là, On arrive à une date de 31 ans, 6, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, on est là, ça y est, on est proche. Mais si on, voilà, c'est pas 33 ans, mais avec tous ces changements de calendrier et tout ça, hein, d'ailleurs, peut-on dire qu'on est réellement en 2011 aujourd'hui? Non, on n'en est pas sûr. Parce qu'il y a eu un petit changement, un moment dans l'histoire, qui a fait que bah, peut-être que, y aurait quelques années de moins, en fait. Donc, si on voit ici, ça ne nous semble pas parfait, ça vient des hommes. Mais Dieu a donné une date précise. Il a dit, ça sera, eh bien, dans ce temps-là. Dans ce temps-là. Verset 26. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Dans ce verset, on peut peut-être voir Titus avec les armées romaines qui vont détruire à la fois la ville et à la fois le temple en 70. Donc ça suit de près la venue du Messie. Et puis on termine avec le dernier verset de notre chapitre, verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Et on voit les pensées prophétiques s'enchaîner. Et ici, Daniel reçoit des révélations, il ne peut pas tout comprendre, il s'agit du futur, il entend des choses là et voilà. Plusieurs scènes historiques et futures, prophétiques. Il y a des indices, il faut décrypter. Et pour nous qui avons du recul maintenant, pour nous qui sommes plutôt à la fin des temps, pour nous qui avons toute la parole de Dieu, qui pouvons comparer Daniel et l'Apocalypse, eh bien, il ressort clairement que ce verset fait référence en fait à l'Antéchrist. Et là, il parle encore d'une semaine d'années. Et il dit, à la moitié de la semaine d'année, il va rompre le pacte qu'il aura fait avec les Juifs et il va commettre une abomination. En fait, on pense que l'Antéchrist va souiller le temple, il va entrer dans le temple qui sera rebâti et il va commettre une abomination dans le temple, peut-être prendre un porc ou quelque chose comme ça et l'offrir en sacrifice pour souiller. Et donc, je m'arrête ici avec l'Antéchrist. On va développer vraiment ce personnage dans les cultes à venir. Mais donc, je termine ici, je conclue et résume. Daniel était accablé, il désirait la délivrance de son peuple. Il est touché dans son cœur, alors il fait une vraie confession de ses fautes, des fautes d'Israël. Sitôt qu'il prie, l'exaucement arrive. Daniel voulait le retour à Jérusalem et Dieu va lui donner la révélation du Messie. Lui, il avait une vision petite en fait. Hein? Il dit, voilà, je demande, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi le retour des Juifs en Israël, à Jérusalem. Et Dieu lui dit, regarde le Messie qui va faire l'expiation des péchés, loin de l'Éternel. Regarde la justice éternelle. Regarde Israël restauré. Regarde toutes ces choses. Dieu donne une grande chose alors que Daniel demandait une petite chose. Daniel a une petite espérance future. Dieu lui donne de regarder l'espérance éternelle. Et c'est bien comme ça que Dieu répond aux prières quand on lui demande et que le ciel nous est ouvert. Souvent, il répond bien au-delà de ce qu'on lui demande. On va s'incliner dans la prière.